Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans Démo d'ici, Démo d'ailleurs. Démo d'ici, Démo d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Démo d'ici, Démo d'ailleurs.
La mère de Garp, Jenny Fields, fut arrêtée en 1942 à Boston pour avoir blessé un homme dans un cinéma. Cela se passait peu de temps après le bombardement de Pearl Harbor par les Japonais et les gens manifestaient une grande tolérance envers les militaires parce que brusquement, tout le monde était militaire. Mais Jenny Fields, pour sa part, restait inébranlable dans l'intolérance que lui inspirait la conduite des hommes en général et des militaires en particulier. Dans le cinéma, elle avait dû changer 3 fois de place, mais le soldat s'étant chaque fois rapproché un peu plus, elle avait fini par se retrouver le dos contre le mur moisi, avec entre elle et l'écran un stupide pilier qui lui bouchait pratiquement la vue. Aussi avait-elle pris la décision de ne plus bouger. Le soldat, quant à lui, se déplaça une nouvelle fois et vint s'asseoir près d'elle. Jenny avait 22 ans. Elle avait plaqué l'université peu après avoir commencé ses études, puis était entrée dans une école d'infirmière où elle avait terminé à la tête de sa classe. Elle était heureuse d'être infirmière. C'était une jeune femme à l'allure athlétique et aux joues perpétuellement enluminées. Elle avait des cheveux noirs illustrés et ce que sa mère appelait une démarche virile. Elle balançait les bras en marchant. Sa croupe et ses hanches étaient si fermes et si sveltes que de dos, elle ressemblait à un jeune garçon. Jenny estimait pour sa part qu'elle avait les seins trop gros. Son buste provoquant lui donnait, selon elle, l'air d'une fille facile et vulgaire. Elle n'était rien de semblable. En fait, elle avait plaqué l'université le jour où elle s'était rendue compte que ses parents, en l'envoyant à Wellesley, avaient eu pour objectif essentiel de la pousser à dénicher puis à épouser un monsieur bien. C'était ses frères aînés qui avaient insisté pour qu'elle entre à Wellesley en assurant à leurs parents que les jeunes femmes sorties de Wellesley jouissaient d'une réputation flatteuse et passaient pour d'excellents partis. Jenny avait l'impression que ses études n'étaient rien d'autre qu'une façon polie de gagner du temps, comme si elle avait été une vache mise en condition pour recevoir la canule de l'insémination artificielle. Elle avait choisi de se spécialiser en littérature anglaise, mais lorsqu'il lui apparut que ses condisciples se préoccupaient avant tout d'acquérir la sophistication et l'aplomb indispensables pour manier les hommes, elle n'eut aucun scrupule à abandonner la littérature au profit des études d'infirmière. À ses yeux, les études d'infirmière avaient le mérite de déboucher sur une pratique immédiate et c'était bien là le seul et unique motif qui l'avait poussée dans cette voie. Elle aimait l'uniforme simple et dépourvu de fantaisie. Le corsage minimisait ses seins, les chaussures étaient confortables et convenaient à sa démarche énergique. Lorsqu'elle était de service de nuit à l'accueil, elle avait du temps pour poursuivre ses lectures. Elle ne regrettait pas la compagnie des étudiants qui se montraient maussades et déçus lorsqu'une femme refusait leurs avances ou bien méprisant et hautain lorsqu'elle les acceptait. À l'hôpital, elle voyait davantage de soldats et d'ouvriers que d'étudiants et leur visée avait le mérite d'être plus franche et moins prétentieuse. Si on leur cédait un peu, du moins manifestait-ils quelque reconnaissance à la perspective de vous revoir. Puis, un beau jour, il n'y eut plus que des soldats, tous aussi vaniteux que des étudiants, et Jenny Fields cessa de s'intéresser aux hommes. « Ma mère, écrivit plus tard Garp, était une louve solitaire. »
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, s'émincer le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seul chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougna, élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face de rat friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amant quatre fois par mois, prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas, à 50 ans ça servira à vous payer de bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
Jenny avait le sentiment d'avoir grandi à bord d'un énorme navire sans jamais avoir vu et encore moins compris la salle des machines. Elle aimait les dimensions auxquelles l'hôpital ramenait tout. Ce que les malades mangeaient, si cela les aidait de manger, où passait ce qu'ils mangeaient. Dans son enfance, elle n'avait jamais vu de vaisselle sale. En fait, lorsque les bonnes desservaient la table, Jenny était convaincue qu'elle jetait la vaisselle. Et Jenny crut longtemps que le matin, lorsque la voiture du laitier apportait les bouteilles de lait, elles apportaient en même temps la vaisselle du jour. Tant le bruit, ces chocs et cliquetis de verrerie, ressemblaient au bruit qui sortait de la cuisine, où étaient enfermées les bonnes occupées à faire Dieu sait quoi avec la vaisselle. Pas une seule fois avant l'âge de 5 ans, Jenny Fields ne vit la salle de bain de son père. Elle tomba dessus un matin qu'elle avait humé le parfum de l'eau de Cologne paternelle et remonté la piste. Elle découvrit une cabine de douche remplie de buées, très moderne pour 1925. Un WC privé, une rangée de flacons tellement différents des flacons de sa mère que Jenny crut avoir découvert le repère d'un homme mystérieux qui, à l'insu de tous, aurait habité chez eux depuis des années. Ce qui, du reste, était bien le cas. À l'hôpital, Jenny savait où passaient toutes les choses et elle était en train d'apprendre en termes très prosaïques d'où presque toutes les choses venaient. À Dog's Head Harbor, du temps où Jenny était petite fille, chacun des membres de la famille avait sa propre baignoire, sa propre chambre, toutes avec des portes équipées de miroirs. À l'hôpital, l'intimité n'avait rien de sacré. Il n'y avait pas de secret. Si quelqu'un voulait une glace, il devait s'adresser à l'infirmière. L'endroit le plus mystérieux que dans son enfance Jenny avait eu le loisir d'explorer seule avait été la cave où était enfermée la grande jarre de grès que tous les lundis on remplissait de palourdes. Le soir, la mère de Jenny saupoudrait les palourdes de farine et chaque matin on les rinçait à l'eau de mer au moyen d'un long tuyau qui plongeait directement dans la mer et aboutissait au sous-sol. À la fin de la semaine, les palourdes avaient dégorgé leur sable, elles étaient grasses et devenaient trop grosses pour leurs coquilles et leurs énormes coups obscènes ballottaient dans l'eau de mer. Tous les vendredis, Jenny aidait la cuisinière à les trier. Celles qui étaient mortes ne rétractaient pas le cou quand on les touchait. Jenny réclama un livre sur les palourdes. Elle lut tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet. Comment elles se nourrissaient, se reproduisaient, se développaient. Il s'agissait de la première créature vivante dont elle comprenait tout. La vie, les mœurs sexuelles, la mort. À Dog's Head Harbor, les êtres humains n'étaient pas accessibles à ce point. À l'hôpital, Jenny Fields avait le sentiment de rattraper le temps perdu. Elle découvrait que les gens n'étaient guère plus mystérieux ni plus séduisants que les palourdes. « Ma mère », écrivit Garp, « n'était pas du genre à faire des distinctions subtiles. » Rares étaient les blagues que Jenny Fields trouvait drôles, et certainement pas celle-ci. Pas de blagues zizi pour Jenny, qui évitait soigneusement le sujet. Elle avait vu dans quel pétrin pouvaient se fourrer les zizi. Le pire n'était pas encore les gosses. Bien entendu, elle voyait des femmes qui ne voulaient pas de gosses et qui se désolaient de se retrouver enceintes. Elle n'aurait pas dû être obligée de garder ses gosses, estimait Jenny, bien qu'elle se sentît avant tout désolée pour les gosses qui venaient au monde. Mais elle voyait aussi des femmes qui voulaient avoir leurs enfants, et celle-là lui donnait envie à elle d'en avoir un. Un jour, se disait Jenny Fields, elle aimerait avoir un enfant, rien qu'un. L'ennui, c'est qu'elle voulait avoir le moins possible de choses à faire avec les zizi, et en tout cas, rien du tout avec les hommes. La plupart des traitements zizi que voyait Jenny étaient donnés aux soldats. L'armée américaine dut attendre 1943 pour commencer à bénéficier de la découverte de la pénicilline. Et beaucoup de soldats n'eurent droit à la pénicilline qu'en 1945. Au Mercy de Boston, dans les premiers mois de 1942, les zizi étaient en général soignés au moyen de sulfamide et d'arsenic. Le sulfathiazole était utilisé pour les chaudes pisses, avec en même temps le plus d'eau possible. Pour la syphilis, avant l'époque de la pénicilline, on utilisait la néoarsphénamine. Jenny Fields voyait là un raccourci saisissant de tout ce à quoi pouvait mener le sexe, injecter de l'arsenic dans l'alchimie humaine pour tenter de nettoyer l'organisme. Quant à l'autre traitement zizi, c'était un traitement local qui lui aussi nécessitait d'énormes quantités de liquide. Jenny participait souvent à des séances de cette nature qui, à cette époque, exigeaient énormément de soins. Parfois même, il était indispensable de tenir le malade. C'était une technique simple qui permettait d'introduire de force jusqu'à 100 cm3 de liquide dans le pénis et le canal de l'urètre avant que tout ne ressorte. Seulement, la technique en question mettait tout le monde un peu sur les nerfs. Quelqu'un avait inventé un appareil pour ce traitement ? Un certain Valentine, aussi l'appareil avait-il été baptisé l'irrigateur de Valentine. Bien longtemps après que l'irrigateur du docteur Valentine eût été perfectionné ou remplacé par un nouvel appareil, les infirmières du Mercy de Boston s'obstinaient encore à appeler cette technique le traitement Valentine. Châtiment tout à fait approprié pour un amant, selon Jenny Fields. Ma mère, écrivit Garp, n'avait pas l'esprit romantique.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les baisers, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes, les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce arrêtez de vous badigeonner. De cette pile idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant, délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus en statue creuse, mais la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus en statue creuse, mais la dent enveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Pour les gogos.
Lorsque dans le cinéma, le soldat changea pour la première fois de place, lorsqu'il posa pour la première fois la main sur elle, Jenny Fields eut le sentiment qu'en l'occurrence, le traitement Valentine serait tout indiqué. Mais elle n'avait pas d'irrigateur sur elle. L'appareil était beaucoup trop gros pour son sac. De plus, le traitement exigeait énormément de coopération de la part du malade. Par contre, elle avait un scalpel. Elle ne s'en séparait jamais. Un scalpel que d'ailleurs elle n'avait nullement volé dans la salle d'opération, c'était un scalpel de rebut dont la pointe était franchement ébréchée. L'instrument aurait été inutilisable pour une opération délicate, mais ce n'était pas une opération délicate que voulait pratiquer Jenny. Les premiers temps, l'instrument avait lacéré les doublures en soie de son sac à main, puis elle avait trouvé un morceau d'un vieil étui de thermomètre qu'elle avait glissé sur le bout du scalpel, le coiffant comme un stylo. Ce fut ce capuchon qu'elle retira lorsque le soldat vint s'installer sur le siège voisin et allongea le bras sur l'accoudoir qu'ils étaient de façon absurde destinés à partager. Sa longue main pendait mollement au bout de l'accoudoir. Elle tressaillait comme le flanc d'un cheval qui frémit sous la piqûre des mouches. Jenny avait fourré la main dans son sac et ne lâchait pas le scalpel. Son autre main plaquait fermement le sac dans le giron de sa blouse blanche. Elle imaginait que son uniforme d'infirmière luisait sans doute comme un pieux bouclier et que pour quelque perverse raison, l'immonde vermine postée près d'elle avait été attirée par la lueur qu'elle irradiait. « Ma mère, écrivit Garp, a passé sa vie à guetter les hommes pour les prendre la main au panier et la main dans le sac. » Dans le cinéma, ce n'était pas au sac de Jenny qu'en avait le soldat. Il lui frôla le genou. Jenny parla d'une voix claire. « Bas les pattes, espèce de salaud !» Des têtes se retournèrent. « Oh, allons, allons !» gémit le soldat, en fourrant prestement la main sous la jupe de Jenny. Il constata qu'elle tenait les cuisses résolument serrées l'une contre l'autre. Il constata aussi que son propre bras, de l'épaule au poignet, venait soudain d'être ouvert comme un melon trop mûr. Jenny avait proprement tranché à travers l'insigne et la chemise de l'homme, à travers la peau et les muscles, mettant à nu les os de l'articulation du coude. « Si j'avais eu l'intention de le tuer, déclara-t-elle un peu plus tard au policier, je lui aurais tranché le poignet, je suis infirmière, je sais comment faire pour saigner les gens. » Le soldat hurla, se redressa d'un bond et trébucha en arrière. Il brandit son bras valide et visa Jenny à la tête, lui assénant un coup si brutal sur l'oreille qu'elle vit 36 chandelles. Elle lui décocha de nouveaux coups de scalpel, lui arrachant de la lèvre supérieure un morceau à peu près de la forme et de l'épaisseur d'un ongle. « Je n'ai pas voulu lui trancher la gorge, déclara-t-elle au policier un peu plus tard. J'ai voulu lui trancher le nez, mais j'ai mal visé. » Sanglotant à quatre pattes, le soldat s'enfuit à tâtons vers le couloir et tenta de chercher asile dans le foyer éclairé. Dans la salle, quelqu'un d'autre gémissait de frayeur. Jenny essuya son scalpel sur le siège, le remit dans son sac, sans oublier de replacer le capuchon sur la lame. Elle gagna alors à son tour le foyer, d'où montaient des gémissements aigus, tandis que le gérant interpellait à travers les portes le public plongé dans le noir. « Y a-t-il un médecin ici, s'il vous plaît ? Personne n'est médecin ?» Ce qu'il y avait par contre, c'était une infirmière, qui s'empressa de se rendre utile de son mieux. Lorsque le soldat la vit, il s'évanouit. Ce n'était pas en fait qu'il eût perdu beaucoup de sang. Jenny savait comment saignent les blessures de la face, elles sont trompeuses. Quant à l'entaille au bras plus profonde, bien sûr, elle réclamait des soins immédiats. Mais le soldat ne risquait pas de mourir d'hémorragie. On aurait dit que Jenny était la seule à le savoir. Il y avait tellement de sang, et surtout tellement de sang sur son uniforme blanc. Les gens ne mirent pas longtemps à comprendre qu'elle avait fait le coup. Les ouvreurs refusèrent de la laisser toucher au blessé et quelqu'un lui arracha son sac. L'infirmière folle, la dingue du scalpel. Jenny Fields était calme. Elle se disait qu'il lui suffisait d'attendre que les autorités responsables se rendent compte de la situation. Pourtant, les policiers ne se montrèrent guère plus gentils avec elle. « Ce type, il y a longtemps que vous le fréquentez ?» lui demanda le premier dans la voiture qui les emmenait au commissariat. Un peu plus tard, un autre revint à la charge. « Mais comment pouviez-vous savoir qu'il allait vous attaquer ?» À ce qu'il dit, il essayait tout bonnement de faire connaissance. « Une vraie salopriste, petite arme, ma mignonne !» lui dit un troisième. « Vous ne devriez pas trimballer un truc comme ça partout, c'est chercher des ennuis !» Aussi Jenny attendit-elle que ses frères viennent arranger les choses. Tous deux faisaient du droit à Cambridge, de l'autre côté du fleuve. L'un étudiait le droit et l'autre enseignait le droit dans la même faculté. Tous les deux, écrivit Garp, soutenaient l'opinion que si la pratique du droit est vulgaire, l'étude en est sublime. Ils ne se montrèrent guère réconfortants lorsqu'ils vinrent la chercher. « Tu vas briser le cœur de ta mère, dit l'un. Si seulement tu étais resté à Wellesley, dit l'autre. » « Une jeune fille seule doit assurer sa protection, dit Jenny. Dites-moi ce qui pourrait être plus convenable. » Mais un de ses frères lui demanda si elle pourrait prouver qu'elle n'avait jamais été en relation avec l'homme. « Tout à fait entre nous, chuchota l'autre. Il y a longtemps que tu sors avec ce type ?» En fin de compte, les choses s'arrangèrent lorsque la police découvrit que le soldat était de New York, où il avait une femme et enfants. Il était venu passer sa permission à Boston et plus que tout redoutait que l'histoire ne vienne aux oreilles de sa femme. Chacun parut convenir qu'en effet la chose serait terrible pour tout le monde. Aussi Jenny fut-elle relaxée.
J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je grille. Tu me fous le feu à la peau. T'as peut-être pas des bras d'athlète, t'as peut-être pas le torse velu, mais j'adore tes mirettes qui se brouillent quand tu me dis que tu vas dans Napoléon, tu vas dans Napoléon, tu vas dans Napoléon, Léon, 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 Léon. Mais voilà qu'un soir au cinérama, au ciné en longueur, sur l'écran exhibiteur, une femme, un serpent, une chatte mollement étendue plus que nue t'a ému. Cette femme plus que nature, en couleur plus que pure, cette roulure sans pelure qui roulait en voiture, cette glue, ce serpent, cette chatte mollement s'est glissée, s'est lavée au creux de ta peau, Léon. Tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, 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 Léon. Depuis tu prends des airs rêveurs, Léon. Pourquoi mon Léon? T'es plus mon Léon. Pour une étoile dont la peau n'est qu'un rayon, un halo, nébuleuse, vapeur, sans chaleur. J'aurais ta peau, Léon, j'aurais ta peau, Léon, j'aurais ta peau, Léon, 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 Léon. Ce fut voluptueusement, sans cri, ni geste, ni adieu. Tu basculas dans le néant, tu n'auras pas vécu bien vieux. C'était qu'une petite écorchure sur la peau de ta figure que tu te fis au rasoir. Je l'avais mouillée de curare. J'ai eu ta peau, Léon, j'ai eu ta peau, Léon, j'ai eu ta peau, Léon, 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 Léon.
Un éditorial d'un journal de Boston avait accusé la marine américaine de ne rapatrier que les blessés qui appartenaient à des familles riches et influentes. Dans une tentative pour couper court à cette immonde rumeur, un sénateur américain proclama alors que si un seul des grands blessés pouvait avoir la chance d'être rapatrié, aucune raison pour qu'un orphelin ne soit pas du voyage, au même titre que n'importe qui. Un tas de gens s'étaient mis en campagne pour dégoter un orphelin blessé afin de prouver que le sénateur disait vrai, et ils avaient fini par dénicher le personnage idéal. Non seulement le sergent technicien Garp était orphelin, mais c'était aussi un idiot dont le vocabulaire se limitait à un seul mot, ce qui l'empêchait de faire ses doléances aux journaux. Et sur toutes les photographies que l'on prit de lui, le mitrailleur Garp arborait un sourire. Lorsque le sergent débile arriva au Mercy de Boston, Jenny Fields eut du mal à le cataloguer. C'était de toute évidence un absent, plus docile qu'un enfant, mais cela mis à part, elle n'aurait guère su quoi dire, ce en quoi consistaient ses autres afflictions. « Bonjour, vous allez bien ?» lui demanda-t-elle, lorsque couché sur sa civière et souriant, il fit son entrée dans la salle. « Garp !» aboya-t-il. À en juger par les faits, les ombres et les aiguilles blanches qui striaient les clichés de ses radios, le mitrailleur Garp était probablement un foutu. Mais du point de vue de Jenny Fields, il était très séduisant. L'ex-mitrailleur de la tourelle de queue était un petit homme bien tourné, aussi naïf et franc dans ses exigences qu'un bébé de 2 ans. Lorsqu'il avait faim, il criait « Garp !» et encore « Garp !» lorsqu'il était heureux. « Garp !» demandait-il lorsque quelque chose l'intriguait ou lorsqu'il s'adressait à des inconnus. Tandis que lorsqu'il reconnaissait quelqu'un, il disait « Garp !» sans ajouter de point d'interrogation. Bien qu'il fît le plus souvent ce qu'on lui ordonnait, il était impossible de lui faire confiance. Il oubliait facilement, et si par moments il se montrait aussi docile qu'un gamin de 6 ans, il était en d'autres occasions aussi étourdi et curieux qu'un bébé d'un an et demi. Ses dépressions abondamment commentées dans son dossier médical paraissaient se produire en même temps que ses érections. En ces occasions, il agrippait sa pauvre quéquette hypertrophiée entre ses mains gantées de gaz et fondait en larmes. Il pleurait parce que le contact de la gaze était moins agréable que le souvenir éphémère qu'il gardait de ses mains. Et aussi parce qu'il ne pouvait rien toucher sans avoir mal. C'était alors que Jenny Fields venait lui tenir compagnie. Elle lui frottait le dos entre les omoplates, jusqu'au moment où il renversait la tête en arrière comme un chat, en même temps qu'elle ne cessait de lui parler d'une voix amicale et traversée de troublantes variations de timbre. Jenny nota le premier symptôme d'une aggravation de l'état de Garp, le jour où il parut perdre le G. Un matin, il la salua par un simple « Harp ». « Garp », le corrigea-t-elle avec fermeté. « Garp ! Harp !» fit-il. Elle sut alors qu'elle était en train de le perdre. Elle contemplait le sergent Garp qui tétait dans son sommeil et elle essayait de se convaincre que son ultime régression serait paisible, qu'il réintégrerait sa phase fœtale et cesserait de respirer avec ses poumons, que par un bienheureux miracle, sa personnalité se scinderait, qu'une moitié de son être se réfugierait dans ses rêves d'œuf, l'autre moitié dans des rêves de sperme, et finalement, il ne serait tout simplement plus rien. Si seulement ses mains arrivaient à se cicatriser, pensait-elle, il pourrait au moins sucer son pouce. Lorsqu'il émergeait de ses rêves de poupon, avide de prendre le sein, du moins se l'imaginait-elle, Jenny approchait son doigt de la bouche de Garp et le laissait téter goulûment. Bien qu'il eût de vraies dents d'adulte, il n'avait pas de dents dans son esprit, et jamais il ne la mordit. Ce fut cette constatation qui poussa Jenny une nuit à lui offrir son sein, qu'il suça avec une ardeur infatigable, sans paraître se formaliser qu'il n'y eut rien à en tirer. Jenny se disait que s'il continuait à la téter ainsi, elle finirait par avoir du lait. Elle sentait un tiraillement dans ses entrailles tellement impérieux, à la fois maternel et sexuel. Les sentiments qu'elle éprouvait étaient si forts. Elle crut un instant qu'il lui suffirait peut-être de donner le sein au bébé mitrailleur de la tourelle de queue pour concevoir un enfant. C'était presque ça. Mais le mitrailleur Garp n'était pas exclusivement un bébé. Une nuit qu'il lui suçait le sein, Jenny constata qu'il avait une érection. Une érection qui soulevait le drap. De ses mains bandées, il s'éventait gauchement en couinant de frustration tandis qu'il lui dévorait le sein. Et ce fut ainsi qu'une nuit, elle vint à son aide. Naturellement, j'ai éprouvé quelque chose lorsqu'il est mort, écrivit Jenny Fields dans sa célèbre autobiographie. Mais je portais en moi le meilleur de lui-même. C'était ce qui pouvait nous arriver de mieux à tous les deux. La seule façon qui pouvait lui permettre de continuer à vivre, la seule façon dont je souhaitais avoir un enfant. Que le reste du monde taxe cet acte d'immoralité est à mes yeux la preuve que le reste du monde n'a aucun respect pour les droits de l'individu. Le jour où Jenny Fields donna naissance à un gros garçon de 9 livres, elle n'avait aucun nom en tête. La mère de Jenny lui demanda comment elle voulait l'appeler, mais Jenny venait d'accoucher et on lui avait administré un sédatif. Elle ne fut pas très coopérative. « Garp !» dit-elle. Son père, le roi de la chaussure, crut qu'elle venait de lâcher un rot. Mais sa mère lui chuchota à l'oreille. « Le nom, c'est Garp. »« Garp » fit-il. « Sergent technicien Garp !» dit Jenny Fields. « Encore un de ces salopards de soldats, je le savais bien !» cracha son père. « Sergent technicien !» insista la mère de Jenny. « ST !» dit Jenny Fields. « ST Garp !» C'est le nom de mon enfant. Elle sombra dans le sommeil. Son père était furieux. « ST Garp » vituperait-il. « Vous parlez d'un nom pour un bébé, ça ?»« C'est son nom à lui, » dit Jenny par la suite. « C'est son fichu nom à lui, et rien qu'à lui. » C'était drôlement marrant d'aller en classe avec un nom pareil, écrivit un jour Garp. Les professeurs me demandaient ce que signifiaient les initiales. Moi, au début, je disais toujours que c'était seulement des initiales. Mais ils ne voulaient jamais me croire. Ce qui fait que j'étais obligée de dire « Adressez-vous à ma mère, elle vous le dira, elle. » Ce qu'ils faisaient. Et cette brave vieille Jenny en profitait pour leur dire ce qu'elle avait sur le cœur. Ce fut ainsi que le monde hérita de ST Garp, né d'une brave infirmière qui savait ce qu'elle voulait, et de la semence d'un mitrailleur de queue, sa dernière cartouche.
Thank you. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming.
Extrait du livre Les elfes et le peuple caché, conte populaire islandais.
C'était près de la ferme et les enfants se trouvaient près d'une butte et y jouaient. Il y avait là une petite fille et deux garçons un peu plus âgés. Ils virent un trou dans la butte. Il semblerait que la petite fille, qui était la Benjamine, ait mis la main dans le trou en disant, en guise de plaisanterie à la manière des enfants, « Mets un seau dans la pomme du vieux, le vieux ne regardera pas. » Un gros bouton de tablier tout doré aurait été placé dans la pomme de l'enfant. Quand les autres enfants virent cela, ils ont été pris d'envie d'en faire autant. L'aîné a donc glissé la main dans le trou, répétant la phrase de la Benjamine, songeant qu'il obtiendrait un trésor au moins aussi beau que le premier. Or, cela n'advint pas, car cet enfant ne sortit du trou que sa main flétrie, et elle resta ainsi toute sa vie durant.
Faut pas faire chier les elfes.
Ton sourire, travers mes pensées, dans un monde que je ne pouvais espérer. Je voyage à perdre la raison, à retrouver l'ivresse de nouvelles passions. Aux odeurs, aux saveurs oubliées, au rythme de tes baisers, le vent dans le dos et à contre-courant, je voyage, je voyage, je continue d'avancer.
Je dors sous des couvertures à l'angle du square Voghera, tout à côté d'un bar branché câblé à la littérature. Je suis une œuvre à moi tout seul, car mon histoire est hors du temps. Tu sais, j'aimerais tant savoir écrire sur cet amour que je porte en moi. Pour tous ces gens qui passent là, qui me regarde des mois parfois, le cœur chaviré de l'effroi, de s'imaginer au même endroit. Et qu'un jour, ils puissent finir comme moi. Ma vie pourtant n'est pas une fin en soi. Tu sais, elle recommence à chaque fois qu'un enfant rêve au fond de moi, qui donne une pièce pour mes cabots. Ma fin s'écrit plutôt comme ça, F-A-I-M pour continuer, une vie sensée, vous cajoler, vous cajoler. C'était cinglé, c'était tordu, mes parents firent ce qu'ils ont pu. Comprenez si vous le pouvez, je ne m'en suis jamais remis. Qu'ils aient souvent autant souffert du manque d'argent, pas cultivé, pas de place pour eux, c'est validé par tous ceux qui n'ont que des idées à exposer, super payés sur des papiers, ça les rassure dans la mesure où beaucoup de choses sont vite jouées, ma gueule, avant de crever, tu sais. Suffit d'avoir été aimé une fois pour que la vie, même à la rue, puisse continuer à respirer d'hiver en hiver avec mes chiens. Au Voghera, je tape la manche. C'est mon travail, je ne meurs pas de faim. Comme mes cabots à qui je donne tout ce que je n'ai pas eu. J'habite Square Voghera, tout à côté d'une brasserie où des gens venus de Paris tapent la discute à très bon prix. Eh ben moi, je fais pareil, seulement je suis payé au juste prix. Je ne travaille pas dans l'abstrait. Ma manche, à ma gueule, ma manche, je l'ai bien méritée, tu sais. Je suis une œuvre à moi tout seul, car mon histoire est hors du temps. Hors du temps. J'aimerais tant savoir écrire sur cet amour au fond de moi pour tous ces gens qui passent là, qui me regardent vivre comme ça, le cœur chaviré de l'effroi, qu'un jour ils puissent finir comme moi, à dormir sous une couverture à l'angle du square Voghera, à dormir sous une couverture, à l'angle du square Voguera, à dormir, à dormir, à dormir, à dormir.
I do think that women could make politics irrelevant. Bias a kind of spontaneous cooperative action, the like of which we have never seen, which is so far from people's ideas of state structure and viable social structure that seems to them like total anarchy. And what it really is very subtle forms of interrelation which do not follow a sort of hierarchical pattern, which is fundamentally patriarchal. The opposite to patriarchy is not matriarchy, but fraternity. And I think it's women who are going to have to break the spiral of power and find the trick of cooperation.
Je laisse toutes mes affaires portées à vos côtés. Je les avais rangées dans ma valise pour vous rejoindre à la frontière des frissons, à la lisière de nos doigts. Pluie douce sur la taie d'oreiller, la lumière du matin a lavé mon chagrin. Quelqu'un d'autre viendra peut-être la respirer. Quelqu'un d'autre viendra peut-être vous respirer. Je vais briser le carillon du temps inspiré à nos fenêtres. Je m'en vais goûter la saveur de la liberté, de vous aimer sans fin. La seule chose que je garde, votre sourire en la vie sous la pluie. L'amour jamais brisé, cette richesse inépuisable qui s'active dans mon ventre à chaque fois que je vous sens vivante. Du fond du chaud de mon être, quelqu'un va venir vous embrasser. Vous serez bientôt éveillé. Pluie douce sur la taie d'oreiller, la lumière du matin a lavé les poisons de nos chagrins. Quelqu'un d'autre viendra peut-être respirer la saveur de la liberté, de vous aimer enfin. Quelqu'un d'autre viendra vous libérer, corps-esprit en harmonie. Je m'efface, quitte la surface, gagne les profondeurs, là, d'où je viens. Je ne suis ni celui qui fait vibrer, ni celui qui est. Je suis feuille parmi les feuilles, une infime parcelle de votre temps de vie.
Tes bottines qui bloquent la machine qui fait d'une ville un désert, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière. Perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. Et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière, infiniment petit ou grand. comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent.
Le désespoir de l'un fait parfois la force de l'autre. Tout contrôler, être dans l'ignorance de soi, l'arrogance et la vanité, les soirs où tu rentres bourré, l'importance de paraître à ce dîner, quatre plombes durant, sens même de l'indifférence que je feins d'ignorer, de paraître exister parmi mes fantasmes attablés, et manger, rôter, péter, attendre le bon mot de la séduction pseudo-intello d'un monde éloigné du sens même des mots et des mots, je soigne mon idiot parano, et chier de la lotte au pruneau, et boire de la mouette et chie dedans, après s'être plaint de l'avenir des chihuahuas. Mon dieu de diable, d'ange marsouin, d'apôtre du capital divin, mon avenir sera de me morfondre pour rien. Mon avenir sera de me morfondre pour rien. Au réveil, l'indécise retient la main de l'ennui. Juste vérifie la présence du décor monté, là, tout près, du corps à cœur docile, l'âme grisée de la veille des ébats de surface, évaporée au premier rayon de lumière, quand mon regard s'attriste de l'absence du tien, quand l'alchimie des corps, dans ce funeste décor, souffle un vent d'amnésie, quand nous tordions nos corps dans les décors d'autrui et toutes ces fantaisies. Retournerai-je à Angel City, dormir pour toujours dans une prochaine vie? Retournerai-je à Angel City, dormir pour toujours dans une prochaine vie? Les rivages obscurs, la barque d'incertitude sur les flots des larmes, les soirs de solitude corporelle où tout nous semble abject. Je laisse mon esprit en veille, juste pour trouver la force d'espérer l'étreinte complice. Oh, merveille, mon esprit et mon corps sans sommeil. Peut-on détourner notre regard de tous ces petits tourbillons, de la magnificence de toutes ces bouches entr'ouvertes en extase, la lumière vibrante qui irradie sur le visage, qui réchauffe et nourrit? Ne plus ressentir l'élan du souffle violent et libérateur qui anime l'âme? Faire semblant de ne plus entendre la musique enivrante qui chante dans tes organes sans jamais s'arrêter? S'éloigner jusqu'à ce que toutes les couleurs finissent par s'éteindre à l'horizon? Est-ce que ce geste généreux et ample qui t'envoie loin, loin, loin dans les étoiles tournantes, dans la pesanteur, peut t'effrayer tant que ça? Alors rêve de pousser les nuages de l'orage, accompagne-les jusqu'à ce qu'ils s'évaporent doucement à l'horizon, puis respire lentement jusqu'au fin fond de ton esprit et poursuis ton voyage jusqu'à ton étoile. Puis, si tu le veux, tu n'auras plus qu'à aimer. Ta fortune spirituelle, alléguée en héritage à la vie de celles et ceux que tu aimes ici-bas. Et surtout, n'oublie pas, offre ton sourire comme seule monnaie d'échange. offre ton sourire comme seule monnaie d'échange. Loin du soupir des nantis qui ont une odeur de naphtaline et les pleurs des perdus, celles de la déprime, regarde-les donc au-dessus des belles vitrines, là où flottent les cœurs de nos plus belles victimes. La jolie demoiselle qui a des airs de plus belle que l'on compte combler de caresses irréelles. Car le monde qui nous sépare, invisible du trottoir, nos passions invincibles combleront ce trou noir. Tout s'agite dans ma tête, je poursuis cette quête. Idéal illusoire, suis-je l'homme ou la bête? Ravageuse ma défaite qui s'éloigne de ma gloire. Alors, tu sais, restons-en là, hélas, et c'est bien là, ici, que ma belle Mélusine trouve la porte de sortie. Et mon doux Mistral s'envole avec l'espoir. Mon doux Mistral s'envole avec l'espoir. Épilogue désinvolte. L'opportunisme que nous avons connu au cours de ces dernières années consiste à appliquer aux occasions la logique du travail abstrait. La chance, la bonne chance, la belle chance devient un but inéluctable auquel je vous invite à vous soumettre sans résistance. Merci d'être là bien vivant. Car tu sais, l'enfer, c'est quand tu ne peux plus voir les gens que tu aimes. Tout, le reste, ça ne compte pas. Dans cette offrande de temps, dans cet espace tant espéré, accueilli aux terrasses des marronniers sentinelles, mémoires immobiles, balises souvenirs, je vous emporte dans ma valise au cœur simple et chasse les soirs glacés, où mon enfant reste au bord du chemin, sans mot dire, sans détour et un seul au revoir, en emportant ton butin de caresses. Humain oiseau passager, au visage solaire, toujours en quête du grand soir, la louve s'abandonne en y croyant si fort, distribuant son regard, bouquet sauvage fleuri, sur un lit de fougères, avec au fond d'elle la saine folie de rechercher sans cesse l'espace des dieux qui l'ont envoyé sur terre. Louvelape son frère sur le bout du museau. avec ce regard intense, magnétique de douceur. Car la lune, chaque soir, caresse d'un sourire le contour de ses yeux, fille et mère sans souci, dans la nuit mer, océane, poissonneuse d'étoiles. 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 Dans la nuit mer, océane.
It's a dirty, dirty clown shit. I say it's a low down dirty. It's a low down dirty clown shit. You know I'm crazy about a married woman, but I'm afraid to call her.
Le PMU d'Oraison. Au bistrot des cieux se vautre le camarade Renaud. À la closerie des lilas se pavane des fadas. Au PMU d'Oraison, on peut perdre la raison. Une joyeuse bande de rigolos envahit perpétuellement le bistrot. Il y a un Normand plutôt ventripotent. Il parle en gueulant, comme un hulant. Il parie sa chemise sur une canisse à 300 contre 1. Le pauvre bourrin part aussitôt au tapin. On prend ce brave homme pour une pauvre pomme. Se pointe l'air ahuri, le fils maudit de la Seine-Saint-Denis. En compagnie d'une vioque, il soliloque, telle une loque. Il se remémore le bon vieux temps, où ni buvant, ni fumant, ni dansant, ni chantant, ni se droguant, il enrhumait Basile Boli. Il était le roi de Bobigny, le prince du Sadebauer. Il était le Kaiser, Franz Beckenbauer. Un ancien parachutiste, maudissant le gaz de schiste, buvant un Ricard, regrettant Michel Rocard, vérifie son ticket. Il a encore gagné un très gros couplet. Au coin du comptoir, planté comme une poire, un rachitique arménien, tendance tête de chien, rafistolé de partout, hurle comme un marabout. Il déteste le peuple turc, il conchit les chiottes à la turque. Il explique le génocide, il ne connaît André Gide. Tout en lapant avec volupté une multitude de rosées. À lui tout seul, avec sa grande gueule, il fout plus le bordel qu'une bande de pucelles. Il adore Alain Bogossian, il vénère Der Zakarian, il est tout sauf chiant, c'est un sacré zigoto. Il est malin comme un singe, épais comme un linge. Benoît, le roi du coït, qui ne fume pas de shit, mais qui propose du pchit, derrière le piano, ancien loupio de l'école lyonnaise, fait chanter les casseroles, fait saliver les cagoles. Il cuisine à merveille, tout le monde s'émerveille. En deux temps, trois mouvements, il monte une béarnaise ou une hollandaise. Holà, garçon, trois plats du jour, pour la douze, et trois binouzes, tant qu'il fait jour. Arnaud, semblant un pétillant corrigan, jongle entre la salle, le bar, les jeux. Une grosse pétasse, complètement peintée, cherche la cogne. Le patron d'une ferme pogne, la balance sur la terrasse, la traitant de connasse. Tout le bar est debout, le cheval sprinte comme un fou. Toute la salle trépigne, Bazir s'approche de la ligne. Il l'a franchi en gavroche, tous en ont plein les poches. Un adorateur de l'OM jette un anathème. L'équipe à Michel joue comme des chèvres. Il exige une trêve. Il y a un drôle de loustique qui lance des piques. Lui aussi a taquiné le ballon rond à un très haut niveau. Désormais, il taquine le litron. Il consomme de la Cronenbourg, la bonne bière qui bourre. C'est un bon garçon, quoique un peu bougon. Il a toujours le bouchon à défaut d'avoir le melon. C'est la fermeture. Une maudite crevure, en mauvaise posture, se met une biture. Arnaud tire le rideau, enfourche son vélo et retrouve sa mousse-mée. Demain sera une nouvelle sera une autre journée. Il faudra cuisiner, il faudra servir des pastis aux adorateurs de Panis. Il y a toujours une putain d'ambiance, faites-moi confiance, chez Benoît et Arnaud.
Bourgeois, camarade, fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade, bourgeois, camarade, fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super drôle, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe, le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu passes ton temps au drugstore sur les Champs-Élysées, tu te crois très très fort, t'es jamais qu'un minet, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, rejoins les rangs de la pègre, tu prendras vraiment ton pied, ne sois plus une petite bête, nous sommes tous des défoncés, regarde-moi, ah, ah, ah. Regarde-moi, ah, 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 regarde-moi, ah, 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 regarde-moi, ah, 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 regarde-moi, ah, 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 regarde-moi, ah, ah, ah.
Le Camtar. Je suis au volant de mon plus que brillant, bricolé de partout, Camtar. Je roule comme un fou. Je m'en fous, j'ai pas le permis, j'emmerde les perdrix. J'ai même pas un point qui traîne dans un coin. Une guinguette avenante, un coin sympa, au bord de l'eau, une cagole au joli minois, je pose de l'encre, j'affale les voiles. J'allume un feu, m'enlume six biches, me lave les ratiches, me frotte les alibofis. Mon magnifique cabot court après un chat. Pour un peu, ça sentirait les vacances sur le chemin de l'errance. Un véritable gentleman, subodorant ma peine à l'âme, m'indique un ancien cancre, ne portant pas le voile, se baladant à poil, proposant du boulot. Je ramasse ses cerises, je me refais la cerise, je ne connais pas la crise. La paye en poche, pas de quoi se payer une Porsche, je descends en Andalousie. C'est la période des olives, viendra le printemps, je partirai en estive, en Isère ou en Savoie, en Bigorre ou au bord de la Voie. L'été venu, pourquoi pas gratter ma guitare à la terrasse d'un PMU en hurlant à les Nantes. Tous les trois mois, évidemment, j'actualise le RSA. Lors des gros frimas, j'intégrerai une communauté dans un bistrot ou à San Francisco. Devenu vieux, j'écrirai mes pérégrinations, démarcherai les maisons d'édition, deviendrai un champion de la rime de la ritournelle. De très anciens PD me traiteront de pucelle, cela me sera complètement égal, j'aurai atteint mon Graal.
Une chanson de collégien, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Ben nous bonheur à se lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se tape bien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Elle descendait de la montagne, flaquait nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zipplin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada à soin à soin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. On eut passé la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Plus question de chercher du travail. Pédaler dans les nuages au milieu des petits lapins. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Une chanson paillarde, une chanson de collégien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. La fille du coupeur de juin.
Barcelone, il a veillé toute la nuit, c'est normal qu'il reconnaisse plus personne. Au-dessus de la ville, il voit monter des fumées, le trottoir est un miroir, mais petit Joe veut pas se regarder. Tout Tanguy, il a du plomb sur la langue, dans la chaleur de la nuit, petit Joe vient guetter l'amnésie. Soudain, il y a le poil, une main qui se pose sur son dos, une voix mystérieuse murmure, seriez-vous le fameux petit Joe? Comme ça qu'on m'appelle et puis vos nouvelles sont-elles cruelles? La voix répond, moi je passais juste par là, j'arrivais plus à dormir et mes remords me faisaient gémir. Depuis plus d'un an je recherche petit Joe pour une femme nommée Rita. Toi t'as ce nom marqué dans ton dos. Sainte Rita, réponds petit Joe, je me souviens qu'elle était belle, malgré son or et malgré ses pères. Tu sais, dis la voix, tes souvenirs sont ingrats, je vois son ombre là-bas, tu devrais parler beaucoup plus bas d'ailleurs. Si ma mémoire est toujours bonne, elle a souvent payé pour ce qu'on lui donne. Écoute.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu des musiques de Michel Arnaud, Errol Garner, Brigitte Fontaine, Jeanne Moreau, les Popini Sisters, Dafer Youssef, Sinéad O'Connor, Higelin, Les Clash, Melvin Taylor, Renaud, Thieffen, Castellemis et Cap de Vielle. Nous avons lu un extrait du Monde selon Garp de John Irving, de La Promesse de James Fontaine. Gérald Chéreau, notre invité, a partagé avec nous ses derniers textes. Son recueil intitulé Instantané est sorti aux éditions LC. Merci Gérald.
Merci à tous. Bonne soirée.
Merci James. Bonsoir.
Bonsoir et à la prochaine.
Nous nous retrouvons pour la prochaine le 31 mai, le dernier jeudi de mai, à 18h30. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés. Cette émission est réalisée à la technique par Christophe Becquereau. Merci, Christophe.